Donc, nous sommes dans l'épître de Jean et dans les écrits du Nouveau Testament, Jean quand même occupe une place assez importante comme auteur. Il est l'auteur de 5 livres, son évangile bien sûr, ses 3 épîtres et le livre de l'Apocalypse. Dans son épître, Jean parle très peu de lui-même. Il ne dit pas grand-chose sur sa personne. Et à chaque fois qu'il utilise le pronom personnel « je », c'est pour dire « je vous écris afin que, jeune Jean, je vous écris ». Mais il dit très peu de choses sur lui. Mais à travers ses écrits, Dieu aussi dévoile le cœur de son serviteur. Dieu s'est choisi quelqu'un qui va écrire de la dimension qu'il a connue le Seigneur aussi, de la même dimension. Jean ne se nomme même pas comme auteur, il ne s'identifie pas comme auteur, mais il s'identifie comme un témoin, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Donc son enseignement est de première main, puisqu'il l'a reçu de première main, de la main du Seigneur, de la bouche du Seigneur. Une bouche, lorsqu'elle parle, la vie est créée. Donc ce matin, on va jeter notre regard un peu sur la personne de Jean, de voir comment Dieu a utilisé son serviteur pour sa gloire, comment il a transformé sa vie et aussi nous édifier. À savoir que Dieu dispose aussi de cette même grâce pour vous et moi ce matin. Jean, comme nous savons, c'est l'homme de la communion avec Dieu. C'est l'homme de l'intimité avec Dieu. Dans son épître, il ne cesse d'encourager les saints à entrer dans une communion avec Dieu, à tisser une relation avec Dieu. Parce qu'il sait très bien que c'est là qu'on va trouver notre bonheur. Tout notre bonheur se trouve dans cette intimité avec Dieu. Nos cœurs seront comblés. Nos âmes n'auront plus soif. Jean le sait et il exhorte, il veut que le peuple de Dieu connaisse aussi ce bonheur-là. Il est l'homme de l'intimité. Dans son évangile, il rapporte aussi des passages intimes que le Seigneur Jésus-Christ connaissait avec son Père. Entre autres, un des passages qui est un cadeau pour vous et moi, c'est la prière sacerdotale dans Jean 17. C'est un temps intime entre Jésus-Christ et son Père. Jésus-Christ dans son humanité et son Père. Et le Saint-Esprit s'est servi de Jean pour nous décrire cette scène-là et nous rapporter le contenu de cette prière-là qui, à mon avis, est la plus belle prière du monde. Où est-ce qu'on voit le cœur du Seigneur alors qu'il est à la veille de la crucifixion? Mais il prie pour les siens et il prie pour nous parce qu'il dit aussi pour ceux qui croiront. Nous sommes dans la Bible. En réalité, tous les hommes sont dans la Bible. Et ce temps d'intimité, c'est Jean qui nous le rapporte. Normalement, le Seigneur prie à son Père. Un temps d'intimité. On ne devrait même pas savoir qu'est-ce qu'ils se disent, en toute logique. Mais le Saint-Esprit nous rapporte ces paroles-là, parce que le Seigneur veut embrasser son peuple. Et il veut dire à son peuple, « Je veux que vous goûtez à la même intimité que moi et le Père on connaît. Je vous embrasse avec moi dans cette prière. » Jean, c'est aussi l'homme de la famille spirituelle. Il se soucie de l'unité de la famille spirituelle. À plusieurs occasions, il va citer Dieu comme étant un père qui aime ses enfants. Combien de fois, lorsqu'on lit cette épître, on parle du père et de ses enfants, d'un père et de ses enfants. Ce qui nous dit aussi que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais considérée comme un orphelinat spirituel, parce qu'il a la présence de son Père au milieu d'eux. Dieu est au milieu de son peuple. Et qu'est-ce qu'il fait au milieu de nous? Bien, les choses qu'il est habitué de faire. Nous enseigner, nous guérir, nous consoler, nous combler de sa présence, nous reprendre aussi, nous redresser. Et on doit lui donner carte blanche à cela, sachant qu'il nous aime. Il est là pour nous donner sa paix, et même une paix au cœur de la souffrance, ce que le monde ne peut pas expérimenter. Le monde, lorsqu'il souffre, il n'est pas en paix. Même au cœur de nos épreuves, Dieu nous donne sa paix, et c'est ça qu'il fait au milieu de nous. C'est lui qui attire les gens vers lui. Les théologiens définissent Jean comme étant, et à juste titre, l'apôtre de l'amour. Mais attention, il n'est pas né comme ça, Jean. Il n'a pas été toujours comme ça. Vous vous souvenez que le surnom que le Seigneur avait donné à Jean et son frère, Boanerges. Si vous voulez savoir c'est quoi, c'est de l'araméen. Vous avez reconnu ça par mon accent, ben ouais, ok. C'est un surnom qui veut dire fils du tonnerre. Dans chaque assemblée chrétienne, je suis sûr qu'il y a des fils du tonnerre. Dans chaque famille, peut-être qu'il y a une fille du tonnerre. C'est sûr que la connotation est différente de comment on l'entend aujourd'hui. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un est quelqu'un du tonnerre, ben c'est un compliment qu'on veut donner. C'est pour dire que cette personne-là est formidable et hyper formidable. Je dis souvent à mon épouse qu'elle est une femme du tonnerre. Des fois, ça peut avoir du sens. Il peut avoir des représailles. Je ne vais pas plus loin. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur l'entend lorsqu'il dit « fils du tonnerre ». L'expression « fils de », c'est une expression de la tradition sémitique. C'est les Sémites qui avaient l'habitude de le dire. Lorsque quelqu'un possédait des qualités, il était fils de ces qualités-là. Lorsque quelqu'un possédait un caractère, il était fils de ce caractère-là. Et Jean et Jacques étaient des fils du tonnerre. Ils possédaient les qualités du tonnerre. Et quelques événements de leur vie peuvent nous faire comprendre pourquoi le Seigneur leur a donné ce surnom, fils du tonnerre. Si on se souvient d'abord dans Matthieu 20:20 et tout ce qui précédait, où il y avait une grande discussion animée entre les apôtres, à savoir lequel de nous est le plus grand. Donc, pour eux, c'était important de savoir ça. Donc, et Jean et Jacques ont usé de stratagèmes. Ils sont passés par la bande en envoyant leur mère pour soutirer cette faveur-là. Le Seigneur voit cela. Il leur donne une instruction d'un petit enfant. Et les disciples étaient en maudit. Ah ouais. Dans notre version, c'est écrit « indigné », mais il y avait des flegmes dans l'air. Il y a un autre épisode aussi où il y a quelqu'un qui chassait des démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean va prendre la parole et dit « Seigneur, nous l'avons empêché de le faire, il ne veut pas nous suivre. » Mais Jean le dit comme s'il venait de faire une bonne action. Le Seigneur lui dit, non, non, il n'est pas contre vous, il est même pour vous. Donc, on voit un excès de zèle dans le caractère de Jean. Il va faire des actions disproportionnées. Et bien entendu, ce fameux épisode où le Seigneur devait s'en aller à Jérusalem, mais il devait passer à la Samarie, ça allait bien. Mais lorsqu'on a su que c'est à Jérusalem qu'il s'en va, parce que Jérusalem et la Samarie, c'est deux nations antagonistes, ben, il n'y a plus de place pour lui. Tout comme lorsqu'il était venu au monde, pas de place. Et là, vous connaissez l'histoire, Jean et Jacques demandent au Seigneur de commander du feu pour consumer ces gens-là. Une solution radicale, fataliste et rapide comme l'éclair, rapide comme le tonnerre. Il y a des fils du tonnerre qui s'ignorent. Parce que le Seigneur leur dit, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Le Seigneur va calmer les pompons. Faites attention à l'esprit qui t'anime. Je ne suis pas venu pour ça. Cet esprit-là était présent dans Israël parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a fait des miracles et tout le monde avait une opinion de lui, tout le monde parlait de lui. Tout le monde voyait en lui celui qui allait chasser les Romains. Et encore mieux, les tuer. Ce serait encore mieux, Seigneur, si tu les tuais. C'est pour ça que le message du Seigneur, il est d'un paradoxe extraordinaire. Lorsqu'il dit « Aimez vos ennemis », nous, on prend ça comme une belle poésie. Mais qui était l'ennemi d'Israël dans le temps-là? Ah bon? Lorsqu'il dit « Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 000 », il faut placer cela dans un contexte pour bien le comprendre. C'est qu'à l'époque, il y avait un règlement qui stipulait qu'à chaque fois qu'un soldat romain débarquait, eh bien, les personnes qui étaient habilitées devaient faire 1 000 avec ce soldat-là pour transporter ses bagages. Et voilà que le Seigneur arrive avec un enseignement qui dit « Fais-en 1 000 de plus ». Le premier 1 000, c'était le 1 000 où ce que de la contrainte. Le deuxième 1 000, c'est le 1 000 de l'accueil. C'est le 1 000 de l'amour. C'est le 1 000 de la grâce. Faut-il croire qu'il demande à Israël d'accueillir ses Romains? C'est très paradoxal. Lorsqu'ils reçoivent ce message-là du temps, nous, nous ne le recevrons pas comme ça. Lorsqu'on dit « aimez vos ennemis », on voit notre voisin qui, des fois, a marché sur notre gazon, et puis on dit « Seigneur, bon. » Ça va beaucoup plus loin que cela. Donc, dans ces trois histoires-là, on voit tout le caractère de Jean. Et ça pouvait même choquer les gens de voir que ce fils du tonnerre avait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Parce qu'on s'imagine que Jean est un enfant de cœur et puis il est sur la poitrine du Seigneur. Non, c'est un fils du tonnerre que le Seigneur est en train d'affectionner, de former. Et maintenant, du fils du tonnerre qu'il a été, il est devenu le fils de l'amour. Mesdames et messieurs, ça c'est la puissance de l'Évangile qui transforme les cœurs. Qui transforme les cœurs de pierre en des cœurs de chair. La pierre, c'est le symbole de l'insensibilité. Et la chair, c'est le symbole de la sensibilité. Nos cœurs deviennent sensibles à l'amour du Seigneur, sensibles à sa sainteté, sensibles à sa présence parmi nous. Seul l'Évangile peut faire cela. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous avons besoin d'entendre l'Évangile. C'est pas les païens seulement qui ont besoin d'entendre. Nous aussi, nous avons besoin d'entendre l'Évangile. C'est vital pour notre croissance. Jean, lorsqu'on regarde comment Dieu l'utilise à travers ses écrits, on peut dire qu'il est aussi un pasteur, un berger. Il tient au peuple de Dieu. Ça le tient à cœur. Il exhorte, il encourage. Il a toujours des paroles à caractère rédemptif. Il se soucie de la jeunesse. Il leur parle, il se tient à côté d'eux, il les écrit. Il les encourage. Jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Jeunes gens, vous avez vaincu le malin, vaincu tout ce qui vient de la convoitise, l'orgueil de la vie. Vous avez vaincu le mauvais. Si la parole de Dieu demeure en vous, il leur rassure sur leur salut. Vous avez la vie éternelle, pas vous aurez. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Et lorsqu'il dit ça, il y a tout l'arrière-plan. Israël était sur tutelle pendant 1300 ans, la loi. Israël est sur la loi. Ils avaient développé, beaucoup avaient développé un salut qui pouvait provenir des œuvres. Et c'est cet arrière-plan qu'ils ont. Et là, Jean va dire, non, vous qui croyez. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile de la malédiction. Oui, oui. Je vais poser une question théorique, vous n'avez pas besoin de répondre, la réponse est évidente. Est-ce que l'évangile de la prospérité, c'est le même évangile que l'évangile de la croix? Donc, si l'évangile de la prospérité n'est pas le même évangile de la croix, donc c'est donc un autre évangile. Et nous savons qu'est-ce que Paul dit. Si quelqu'un, même un ange, c'est une hyperbole, une exagération. S'il vient avec un autre évangile que celui de Christ, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit, la malédiction. La malédiction pour celui qui annonce cet autre évangile-là, parce qu'il va contaminer tous ceux qui vont recevoir ça. C'est pour ça, si quelqu'un arrive dans l'assemblée des justes pour arriver avec un autre évangile, je pense que Pasteur Dieu va sortir les griffes. Et moi, je vais être là pour les affûter. Là. Vous savez, j'avais entendu dans une conversation quelqu'un qui disait que l'évangile de la prospérité, c'est biblique. Et il s'appuyait sur le fait que Jean dit à Gaius, « Eh bien, j'espère que tu sois en bonne santé et que tu prospères. » À tous égards. Et à tous égards, ça veut dire dans tous les domaines. C'est Jean qui le dit, notre Jean, là. Monsieur, est-ce que tu peux finir de lire le reste du passage? Comme prospère l'état de ton âme, voici la véritable prospérité. Elle est intérieure. Elle est du cœur, elle est de l'âme. Et lorsque le cœur, l'âme prospère, ça rejaillit dans tous les domaines de notre vie. C'est ça que Jean veut nous dire. Salut par les œuvres, ça aussi, c'est un évangile de la malédiction. Oui. Il viendra, Les personnes, chaque personne, lorsqu'il va se présenter devant Dieu, probablement Dieu va lui dire pour quelle raison que je devrais te laisser entrer en ma présence. Pour quelle raison que je devrais te laisser entrer dans ma maison. Il y en aura qui n'ont même pas d'humilité, qui vont dire, mais n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'était des enseignants, des personnes qui occupaient des fonctions importantes dans l'Église. Ils enseignaient, ils prophétisaient. Est-ce que je peux utiliser une version québécoise? C'est que ces gars-là disent, Seigneur, tu ne peux pas dire qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom. Et tu ne peux pas dire qu'on n'a pas prophétisé en ton nom, qu'on n'a pas enseigné en ton nom. J'attends mon trophée. Ils ont présenté ou ils ont parlé de leurs œuvres. Ils n'ont pas parlé de ce que Dieu a fait pour eux. Ils parlent de ce que eux font pour Dieu. Ils ont présenté leurs œuvres. Je le redis encore. Ils ont parlé de leurs œuvres. Écoutez-moi bien, l'Assemblée du Seigneur. S'ils ont parlé de leurs œuvres, c'est parce que le message qu'ils donnaient sur la chair, c'était un message d'un évangile, d'un salut par les œuvres. Leur prophétie, c'était au service de ce message-là, parce que ça devait être cohérent avec leur message, non? On a prophétisé en ton nom. Vous avez prophétisé en votre nom. C'est l'évangile de la malédiction, de salut par les œuvres. Obtenir ce salut par les œuvres. L'évangile, le Seigneur nous demande dès le départ. Ce n'est pas l'homme qui grimpe l'échelle de la justice et puis ça vient, ça s'en vient, on va l'atteindre. Non, c'est Dieu qui descend. On le montre tout de suite dans la Genèse. L'homme a péché, ce n'est pas l'homme qui vient vers Dieu, qui veut confesser son péché, qui veut faire connaître son regret. C'est Dieu qui vient vers l'homme, sa brebis égarée, qui dit, « Où es-tu, Adam ?» Une traduction moderne nous dit, ce serait, « Où en es-tu, Adam ?» Et nous n'avons pas aucune idée de comment Dieu est prêt à faire une condescendance, c'est-à-dire de se mettre à notre niveau pour nous sauver, jusque où qu'il est prêt à aller, jusqu'à la poussière. Et là, nous étions de la poussière. Il relève l'indigent. Jusque dans les régions inférieures, il n'y a pas de région plus bas qu'il ne peut pas descendre pour venir sauver. Ce n'est pas monter une échelle, c'est Dieu qui descend vers nous. C'est sûr que dans la dimension présente de notre salut, il y a la sanctification. Mais attention de ne pas faire la sanctification le moyen du salut. Il y a trois étapes à notre salut. Le salut dans sa dimension passée, parce que la justification, c'est une œuvre que Jésus-Christ a déjà accomplie pour nous, c'est dans le passé. Nous vivons notre sanctification dans la dimension présente de notre salut, et dans la dimension future, ce sera la glorification. Mais notre sanctification, comment je pourrais le décrire? Notre sanctification, c'est notre marche avec le Seigneur, mais qui se fait de progrès en progrès. Donc, elle ne peut pas être le moyen du salut, parce que jusqu'où qu'on doit progresser pour obtenir ce salut-là? Jusqu'où? Bien malin, celui qui pourrait nous le dire. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque le Christ apparaîtra, là, notre sainteté va être totale, vraiment totale. Nous sommes saints en position devant Dieu à cause de son œuvre, mais lorsque le Christ apparaîtra, nous le serons dans notre nature. Notre sanctification sera rendue totale. En attendant, on progresse dedans, on marche dans ce salut-là, on travaille à ce salut, et non pas pour le salut, à ce salut. Parce que ce salut-là, c'est un genre de vie que seulement Dieu peut produire en nous. C'est un autre genre de vie. J'ai bien aimé, Pasteur Jeff, ton illustration du petit bout de chou qui tend la main pour recevoir un bonbon. Sais-tu qu'une telle illustration peut choquer beaucoup de monde? Hein? Tant pis. Oui, pour beaucoup. Oh, c'est ça seulement, tendre la main du cœur comme ça devant Dieu? Il n'y a pas plus que ça. Oh, il y a des religions où les gens se font torturer jusqu'à ce que leur peau saigne pour être sauvée. Puis tu viens nous dire seulement ça? Ben, je suis choqué, moi. Ben oui, écoutez, j'ai déjà entendu un homme qui dit, moi j'ai déjà monté les marches d'escalier de l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Il dit, t'avais des bons genoux. Ça peut choquer. Le fils aîné dans la parabole du fils prodigue, c'est un abus de langage, mais de ce père qui avait deux fils, du père aimant. Il était choqué de voir son frère. Son frère est devenu quoi? Prostitué. Parce qu'on dit tout le temps, il s'en allait vers les prostituées, mais lui aussi, celui qui s'allie à la prostituée fait un avec elle, c'est ça. Lui. Donc c'est un prostitué qui revient à la maison, là. Le fils aîné, lui, il est tellement... Écoutez, il entend la musique. Et ça devait être un genre de musique comme la musique de ce matin, joyeux. Ce n'était pas des balades, c'est un party qu'il y a. Ça devait être la disco du temps, là. Est-ce que vous imaginez si quelqu'un, un frère ou une sœur d'entre nous qui aurait connu une chute et qui revient repentant? Et puis, moi, comme pasteur, j'ai dit, viens-t'en l'équipe de louange, viens, on va faire de la musique de party pour lui qui est revenu. Ah bon? Lorsqu'on met les choses dans le contexte, on voit. Si vous remarquez bien, le fils aîné, on a un fils unique qui est notre fils aîné aussi. Donc, c'est un bon lapsus quand même. Parce que Jésus-Christ, c'est le fils aîné aussi. Donc, ça me sauve. Le fils aîné, si vous avez remarqué bien, il ne parle même pas de son père comme un père. Il parle de son père comme un maître. J'ai servi pour toi ce que j'ai fait pour toi depuis des années. Et lorsqu'il dit, et ton fils, là je vais le traduire en québécois, et ton chouchou, ouais. Il ne parle pas de lui-même comme un fils, il parle de lui-même comme un serviteur de ce qu'il a fait. Et puis bizarrement, l'autre frère, lorsqu'il faisait son introspection, il disait, si je pouvais retourner comme un serviteur. Puis ce que j'aime dans cette histoire, c'est que ça ne finit pas comme un roman à l'eau de rose. Parce que le fils qui était parti doit apprendre à découvrir l'amour de son père. Le fils aîné doit apprendre à découvrir l'amour de son père. Il doit aimer son frère. Il n'a fait aucun accueil à son frère. On laisse la porte pour ça. Telle est l'Église de notre Seigneur. Beaucoup de travail encore à faire. Euh, pour enchérir l'illustration de Pasteur Jeff de cette main tendue, c'est le cœur tendu. Pasteur Jeff, dans son enseignement la semaine dernière, nous avait dit, ce n'est pas notre foi qui nous sauve. Je sais que ça peut faire sursauter les gens, mais c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, par le moyen de la foi. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ avait cette expression-là lorsqu'il faisait un miracle, il disait aux gens, « Ta foi t'a sauvé. » Mais ici, c'est une figure de style de notre Seigneur. Écoutez, regardez, « J'ai beau avoir la foi à transporter les montagnes, j'ai beau croire de toute ma force, si le Seigneur ne dispose pas à me faire grâce, à quoi ça va me servir cette foi-là? » Permettez-moi de faire une illustration. Imaginons que nous sommes dans ce lieu, puis qu'il n'y a que des murs, il y a une seule fenêtre, tout est fermé, il n'y a pas d'électricité, nous sommes dans l'obscurité totale, aucune lumière. Puis tout d'un coup, on ouvre une fenêtre qui laisse passer les rayons du soleil et qui éclaire la pièce. Je vais vous poser une question stupide, ne répondez pas. Qu'est-ce qui éclaire? Les rayons du soleil qui passent ou la fenêtre ouverte? C'est ainsi est la foi. La foi, c'est la fenêtre du cœur qu'on ouvre devant Dieu pour laisser entrer la grâce de Dieu. Ce n'est pas la fenêtre qui éclaire la pièce, mais c'est le moyen par lequel Dieu libère sa puissance et vient nous sauver. On doit le bénir pour cela. Dieu est bon. Et il est merveilleux. On n'a pas de nom pour le décrire. On n'a pas de langage pour lui dire qu'est-ce qu'il représente pour nous. On est limité par « Merci Seigneur », mais de tout notre cœur, nous lui disons « Merci ». Donc la sanctification n'est pas le moyen du salut, il découle de la justification. Et en passant, Dieu n'a jamais demandé à un païen de se sanctifier. Jamais. Ce serait même un non-sens de dire à un païen, mettez-vous à part pour mon service. Ce serait même un non-sens total. Vous verrez aucun personnage païen qui est sanctifié dans la Bible. Tous ceux qui sont sanctifiés, ce sont ceux qui sont sauvés, ceux que Dieu considère comme étant son peuple. C'est à son peuple qu'il demande de se sanctifier et non pas à l'humanité tout entière. Si ce serait le cas, on ferait de la sanctification le moyen du salut. Seulement son peuple. Et la sanctification n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est d'abord l'œuvre de Dieu, mais en coopération avec l'homme. La justification, c'est l'œuvre de Dieu sans la coopération de l'homme. La sanctification, l'homme coopère aussi. Lorsque on parle de Jean, puisqu'on revient là-dessus, Jean, c'est l'homme par lequel que Dieu tranche. Je crois que dans son épître se trouvent deux versets qui sont peut-être les plus tranchants de la parole. Il dit, « Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils ne possède pas la vie. » Plus tranchant que ça, tu meurs. Remarquez bien, Jean ne parle pas de ceux qui sont du bon monde ou du mauvais monde. Là. Non, parce que l'enfer est pavé de beaucoup de gens bons. De bonnes gens, qu'on dit en français. C'est d'avoir le Fils ou pas. Et un autre verset que je trouve tranchant, tranchant cinglant, je peux demander à M. Brousseau de le mettre. C'est Jean 1, verset 15, c'est l'épître de Jean 1, verset 15. Si M. Brousseau peut le mettre pour nous. Et il dit, petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un a l'amour du Père, si quelqu'un aime le monde, bon, l'amour du Père n'est point en lui. Ce commandement-là, ça demande une certaine maturité pour l'obéir. Ce n'est pas un commandement qu'on peut donner à des petits-enfants. Et là, je ne parle pas de petits-enfants comme Jean nous le dit, mais des petits-enfants en bas âge, 10 ans et moins. Je vais m'expliquer pourquoi. Si vous voyez votre enfant qui est en train de faire quelque chose qui va être néfaste pour lui, qui va amener des désarrois sur sa vie, tout bon père de famille ou toute bonne mère de famille va intervenir. Il va dire, ne fais pas cela. Ne va pas là. Mais on sait très bien que même si l'enfant nous obéit parce qu'il a un peu de crainte pour nous, on sait très bien que la folie qui est dans son cœur est attachée est toujours là. Ici, ce n'est pas seulement « ne fais pas cela », mais c'est « n'aimez pas cela ». Ça va plus loin que l'action. Ça va trouver la racine qui est dans le cœur. Un petit enfant ne connaît pas son cœur encore. Il apprend à connaître son cœur à travers les regards de son parent. C'est un commandement qui tranche et puis des fois c'est cinglant. N'aime pas cela. Parce que si tu aimes ça, tu vas être esclave, ça va créer des addictions. Et ça va être plus difficile de s'en sortir. C'est un commandement étrange quand même, n'aimer pas cela. Parce qu'on est à contre-courant, parce que... Comme philosophie de ce siècle, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. On ne peut pas contrôler nos sentiments. C'est ce qu'on dit. On ne peut pas contrôler les inclinaisons de notre cœur. Et on prend ça pour justifier notre manière de vivre, puisque c'est plus fort que moi. J'aime ça. Mesdames célibataires, si vous trouvez... un homme qui veut vous épouser, mais qui ne peut pas contrôler son amour pour vous, faites attention. Ils disent, on ne peut pas aimer sur commande. C'est des pulsions incontrôlables. Ce n'est pas ça que dit le Seigneur. Le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Moi, je ne peux pas peut-être vous commander de vous aimer, mais le Seigneur, lui, il le fait. C'est un commandement, c'est l'amour sur commande. Et je remercie le Seigneur, parce que je ne suis pas aimable. Mais il vous a commandé de le faire. Gloire au Seigneur. L'amour sur commande, ce que les gens disent, on ne peut pas commander cela. C'est ça l'amour spirituel, un amour par obéissance. Et souvent de fois, nous le vivons pas dans cette dimension, parce que s'il y a des frictions et des conflits, et puis c'est ce qui sort, la pulsion qui sort, et puis on se fie à cela. Non, non. Si vous n'êtes pas capable d'arriver à endurer votre frère, faites-le pour Dieu. Si vous n'êtes pas capable d'endurer votre sœur, faites-le pour Dieu. C'est lui qui nous commande. Pour obéir à ce commandement-là, il faut avoir une bonne connaissance de son cœur. Jean dit « n'aimez pas ». Pourquoi? Parce que Jean sait très bien par le Saint-Esprit que les attachements du cœur sont plus puissantes que la raison même lorsqu'elles nous envahissent. Le Seigneur eut à dire à son peuple, « Tu ne feras pas d'adultère. » L'action, « Tu ne commettras pas cela. » L'action, « Tu ne feras pas de faux témoignages. » L'action, « Tu ne convoiteras pas le désir du cœur. » Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son âme. Le centre, le désir du cœur, ça, ce n'est pas l'action. Ce commandement demande beaucoup de maturité. Et ça évite qu'on ait des addictions, des désarrois, des choses sur notre vie. N'aimez pas. Et des fois, on est en processus pour ne pas aimer quelque chose, parce qu'on a goûté à certains plaisirs et puis on voit que ça a créé des accoutumances. Dans le domaine médical, ils disent des dépendances, je ne suis pas d'accord. On ne dépend pas de cela. Ce sont des accoutumances. Parce que si on dit qu'on dépend de cela, on n'a aucune responsabilité. Non, je dépend de cela. On dépend de l'air qu'on respire, on dépend de la nourriture qu'on mange. Si ce n'est pas le cas, mais pas de ça, on ne dépend pas de ça. Ce sont des accoutumances qu'on s'est données nous-mêmes. Et je peux comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des addictions contre lesquelles qu'ils sont en train de lutter et que ce n'est pas facile pour lui de dire, comme Jean le dit, n'aimez pas cela. Parce que si mon cœur a des mauvaises inclinaisons, si je lutte de toutes mes forces, comme dit l'apôtre Pierre, les convoitises charnelles, ça fait la guerre à l'âme. Il y a une guerre qui se fait. Si j'essaie de lutter de toutes mes forces, même si je ne fais pas l'action, la convoitise est toujours dans mon cœur, parce que je suis en train de le contenir. Et à un moment donné, ça va sortir comme un fils du tonnerre. Eh bien, ce que Dieu peut faire, il peut changer les désirs de notre cœur. Mais pour cela, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La victoire, ce serait que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ces convoitises-là. Je n'aime pas ces choses qui sont basées sur l'orgueil de la vie, c'est-à-dire l'orgueil de la richesse, l'orgueil de la réussite, la convoitise des yeux. Je n'aime pas cela. Et bien là, j'ai la victoire. Remarquez bien, Jean dit la convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Le stratagème satanique, c'est ce qui s'était passé dans le jardin. La femme vit que l'arbre est agréable à la vue, convoitise des yeux. Bon à manger, convoitise de la chair. Précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Il utilise encore ce même stratagème lors de la tentation du Seigneur dans le désert. Change ces pierres en pain. Convoitise de la chair. Regarde ces royaumes, convoitise des yeux. Et puis plane-toi en bas, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le temple. Hein. Si on voit le Seigneur se planer là, et puis les anges romains, et ça va faire l'orgueil de la vie, ça, là. Que Dieu nous accorde vraiment le discernement de voir lorsque l'ennemi vient avec ces stratagèmes-là pour qu'on puisse dire « Hola ». Moi, je suis convaincu que Satan, le diable, ne peut pas prendre nous tous ces sites-là et nous convaincre d'aller nous batifoler dans un club échangiste. Je ne crois pas qu'il peut réussir un tel tour de force. Malgré toute la puissance qu'on dit qu'il a, nous convaincre tous ici, là, on s'en va dans un club échangiste, nous batifoler. Je pense qu'il n'essaierait même pas de cela. Par contre, il voudrait stimuler notre justice propre. Voudrait nous simuler pour savoir lequel d'entre nous est le meilleur prédicateur ici. Eh oui, c'est ce qu'il avait fait pour... Il faut qu'on le voit venir lorsqu'il vient. Lorsqu'il vient pour stimuler notre justice propre, pour dire la seule justice qu'on reçoit, c'est la justice de notre Seigneur. Le seul grand, c'est notre Seigneur. Nous, nous sommes, comme tu disais, les petits bouts de chou. Lorsque le petit bout de chou veut être le plus grand de la gagne, là, c'est pas... J'avais beaucoup de choses à partager encore, mais je vois que l'heure a été dépassée. Jeudi dernier, on a connu un temps fantastique avec les retraités. Vous n'avez pas besoin d'être des retraités pour venir voir les retraités. Là. Et puis, il y avait Pasteur Michel qui nous avait amené la parole de Dieu. C'était extraordinaire. Je jubilais, je tripais vraiment à entendre. Pasteur Michel nous a apporté la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez Pasteur Michel Poisson, est-ce que vous le connaissez? C'est un pasteur qui chante du Rolling Stone. Non? Ouais. Pour de vrai, oui, mais c'est béni, par exemple. Il est ici. Et Pasteur Michel nous avait dit quelque chose. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ce monde par un miracle, le miracle de la naissance virginale. Il quitte ce monde par un autre miracle, le miracle de la résurrection, afin que l'humanité sache qu'il est le Rédempteur, le Messie, l'envoyé de Dieu. C'est-tu trippant, ça? Je trippe. Et c'est ça qu'on doit annoncer au monde. Nous sommes une race élue. Nous sommes une nation sainte. Et on doit annoncer les vertus de Dieu. Quelqu'un a déjà dit, je pense qu'il s'appelle Jimmy Stewart, il dit, le plus grand ennemi de l'Évangile, ce n'est pas la mondialisation, ce n'est pas l'athéisme et tout ce qu'on connaît. Il dit, c'est lorsqu'un chrétien essaye d'entrer dans le ciel incognito sans parler de sa foi. Annoncer les vertus de Dieu. Et pour finir sur la personne de Jean, Jean qui aime le peuple de Dieu va le réconforter à une manière extraordinaire. Il va leur faire savoir leur identité en Christ d'une manière extraordinaire. Si je comprends bien l'enseignement de Jean, dans notre identité. Jean dit, nous sommes le Christ. Non pas de manière ontologique, mais par adoption, oui. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà l'équation de Jean. Tel est notre Seigneur, tel nous serons. Mais cela n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Nous serons revêtus entièrement de sa nature. Et ce sera la glorification. C'est ça la glorification, d'être semblable à lui en tout point. La glorification, c'est de recevoir un corps sans la présence du péché. Nous serons semblables à lui sans péché. Je sais qu'on ne peut pas imaginer cela parce qu'on est né dans l'iniquité, mais je pense qu'on va s'habituer assez rapidement. Ouais. Donc, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour tant de faveurs imméritées. Merci, Dieu nous a fait ce cadeau extraordinaire. Il nous a donné à nous tous toi-même, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu nous as donné ton cœur. Et Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de vivre ces réalités-là. Accorde-nous d'être habités par cette réalité de ton amour. Accorde-nous de nous aimer les uns les autres. Accorde-nous de marcher dans la fidélité. Accorde-nous, Seigneur, de marcher comme des fils de la rédemption. Nous ne sommes plus les fils de la rébellion. Tu nous as donné un autre statut, tu nous as pardonné nos péchés. Et comme les chants ont chanté des orphelins, tu en as fait des fils et des filles. C'est ce que nous sommes. Oui, c'est ce que nous sommes, Seigneur. Cela n'a pas encore été manifesté, mais lorsque tu apparaîtras, nous serons, Seigneur, avec toi dans ta gloire. Et ta gloire brillera sur chacun de nous. Et on te bénit. Sois exalté pour toujours. Et sois béni éternellement, Seigneur. Nous te prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.